Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Aaron's 5e épisode. Et on ne peut plus intéressant avec une line-up hyper intéressante. On va rentrer rapidement dans le sujet. Mais avant tout, on va faire un petit tour de table, on va se présenter. Et on va commencer par ma droite. Go, si tu veux.
Allez, salut à tous du coup. Mathias, je suis l'un des deux cofondateurs d'une boîte qui s'appelle The Product Crew, ou TPC. On a monté une communauté il y a 3 ans avec 10 000 devs, product, designers et gens de la data. Et on a 2 missions. La première, c'est d'aider cette communauté à grandir dans leur métier. Donc, on leur partage énormément de contenu, on organise du partage de connaissances pour faire grandir les personnes dans leur carrière. On les aide à trouver des jobs. Donc ça, c'est la partie talent. Et l'autre mission, c'est d'aider nos entreprises clientes. Donc, on en a 800 partenaires qu'on aide justement à connecter avec les talents de la tech. Et voilà, recruter un peu des brutes.
Ok, cool, cool.
Top. Alors moi, Arthur, du coup, product manager chez YeStudio. Voilà, j'ai pas forcément de phrase d'accroche en plus, mais on va pouvoir en discuter un peu plus après.
Ok, cool. Nickel.
James, j'ai cofondé YeStudio, un studio de développement. On conçoit donc et développe des applications en alliant la tech, le business et le produit.
Nickel. Et moi, c'est Mathieu. On commence à se connaître.
Hein. Petit à petit. Il paraît.
Ok. Je vous avais promis au départ de ce podcast-là qu'on allait rentrer rapidement dans le sujet. Et un sujet un peu plus intéressant parce que Mathias nous a ramené une énorme surprise, en fait. On se sent privilégié, Mathias.
Vous êtes
en fait, je sais que chez TPC, l'année dernière, vous avez fait une enquête. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cette enquête-là, en fait ? Parce que je pense qu'elle va parler à beaucoup de personnes dans la tech et d'autres personnes, d'ailleurs. Et nous dire un petit peu d'où vous êtes venu, enfin déjà à la base, d'où l'idée vous est venue de faire cette enquête-là. Quels ont été un peu vos retours, parce que vous en avez fait une l'année dernière, il me semble.
Ouais.
Et comment s'est passée celle de cette année et est-ce que vous avez eu des retours ? Ça, je te laisserai nous en dire plus.
Yes. Déjà, effectivement, il faut savoir que nous, on est un peu avec TPC à la croisée des professionnels de l'écosystème avec nos 10 000 membres et des entreprises. Et la question qui revient le plus souvent, c'est comment est le marché ? Est-ce que c'est le moment de changer de job ? Est-ce que je suis bien payé ? Plein de questions qui ont... Voilà, c'est difficile des fois de répondre très précisément au contexte, sauf si tu as de la donnée quantitative. Et du coup, l'an dernier, en fait, on s'est dit, c'est le moment, on a une des plus grosses communautés de tech product de France, on a l'info, il faut juste qu'on la rassemble, il faut juste qu'on fasse participer les membres, qu'on leur donne un peu...
Tu peux nous rappeler, vous êtes combien
TPC dans la boîte
non, dans la communauté.
Dans la communauté, on est 10 000.
Vous êtes 10 000, ok.
T'as un tiers de développeurs, un gros tiers de product, un gros tiers de designer et le reste, c'est data.
Okay.
Donc, tu as 4 familles de métiers.
Huge.
On a commencé avec le product, puis le design, et maintenant, c'est engineering et data aussi. Et ça se voit d'ailleurs dans le profil des participants de l'enquête. Là, cette année, on en a eu 3200. Donc, c'est des plus grosses enquêtes concrètement en France sur l'emploi, les salaires de la tech et du produit. Et tu as une distribution assez cool, justement. Donc, on a pu avoir de la donnée en France, beaucoup à Paris, évidemment, parce que l'écosystème est quand même hyper parisien, mais aussi énormément en province, et même des Français qui sont au reste du monde, en Europe et tout, donc on a de la data sur tout. On vient juste, du coup, de terminer l'enquête, on crunch la data là depuis 48 heures, c'est pour ça qu'on peut vous annoncer un peu les premiers insights.
Ouais,
j'ai pas le détail, je pourrais pas vous dire à chacun combien vous devriez gagner demain, machin. En revanche, j'ai des grosses tendances, et du coup, je peux vous les partager.
D'accord, ok. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit tour de l'analyse globale un peu de cette enquête-là. Là.
Ouais.
Un peu voir un petit peu l'output et faire une petite analyse globale, échanger un peu nos points de vue dessus. Et ensuite, moi, j'aurais une question, en fait, parce qu'on t'a invité, et certainement, comme tu l'as dit au départ, vous avez commencé par le product. Et j'aimerais qu'on puisse un peu aussi voir un petit peu quel a été l'impact, en fait, quel impact a le marché aujourd'hui sur les métiers du product ? Mais on pourra revenir dessus en second temps. Ce que je te propose, c'est qu'on se fasse un petit tour un peu de l'état du marché et de l'analyse que vous avez eue.
Ouais, ça marche. Bah, écoute, j'ai un peu ramené, on va dire.
Tu veux qu'on commence par quoi ? Je te laisse.
Ouais, vous me dites. Mais bon, je pense déjà, la grosse question, c'est 2024. Là, on est en avril. Il est comment le marché ? Ouais. Est-ce qu'il est vivant ?
C'est ça, c'est vrai qu'on se pose la question. C'est vrai qu'il peut y avoir... On peut avoir l'impression que le marché il est un peu sclérosé. Post-pandémie, il y a eu une espèce de panique et on dit il n'y a plus d'argent, en fait. C'est un peu ce qu'on se dit. On dit, OK, il n'y a plus d'argent, les vannes sont fermées, il n'y a plus de levée, donc il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'emploi, il y a moins de salaire. Et il y a de plus en plus aussi... c'est un moment, on arrive à un peu moment, c'est un peu conjoncturel parce qu'on arrive à un moment donné où il y a eu beaucoup de nouveaux profils sur le marché qui sont rentrés, ouais. Des bootcamps qui ont été... Ils ont été hyper actifs entre 2015 et 2020 et c'est les mecs qui sont où les filles ils sortent.
C'est dur.
Ouais, c'est ça. C'est compliqué. Et est-ce que tu peux me donner un peu, est-ce que réellement le marché est sclérosé? Est-ce que c'est une impression où vraiment le marché aujourd'hui, il n'y a plus de recrutement, il n'y a plus d'argent, les salaires sont à la baisse
ouais. Tu vas voir qu'il y a, beaucoup de. Enfin, on arrive du coup avec la donnée quantitative là à casser pas mal d'a priori justement. Le premier, effectivement, c'est que 2023, ça a été une année de grosse claque. Le marché a quand même pris une grosse claque. Il faut comprendre d'où on partait. On partait d'une période post-Covid où vraiment tous les indicateurs ont explosé, le volume des levées, les volumes de recrutement. Effectivement, le nombre de juniors qui sont allés se former à ces métiers, on parle du design, du dev, du product. Et donc, en fait, tout a complètement enflé. Ça s'appelle une bulle, hein. C'est comme ça qu'on l'appelle. Enfin, voilà. Et effectivement, 2023, c'est un peu l'éclatement de la bulle. Donc, c'est un retour de bâton où on a vu un gros licenciement dans les scale-up. Donc, les scale-up ont pris très cher. Pourquoi ? Parce que déjà, elles étaient incentivées sur des croissances complètement dingues et qu'en fait, il y a eu un peu une fin de boom économique du boom économique post-Covid, croisée avec conjoncturellement, effectivement, une fin des levées astronomique. Donc, il n'y avait plus de cash. Il n'y avait plus de possibilité d'aller chercher les croissances à 2-3 chiffres qui étaient promises. Et donc, pour les scale-up, c'est probablement la catégorie de boîte qui a pris le plus cher là, dans la tech en 2023. Et ça a un peu pris le devant de la scène. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on a vu que ça et on s'est dit le marché est complètement explosé, il est au sol, quoi, en regardant justement ces grosses startups un peu manger, quoi. Et ça cache une réalité où en fait, tu avais un dynamisme au niveau des levées de fonds sur l'amorçage, série A. Et tout ça, en fait, c'est resté assez dynamique en France. On peut le regarder dans les chiffres, mais on voit que le volume de levées, les chèques, les montants sur les levées de ces petites startups, c'est beaucoup plus petit. Quand tu as une licorne qui lève 100 millions, il faut 50 petites levées série A à 2 millions pour que ça compense, quoi. Donc en réalité, voilà, côté petite startup, amorçage et tout, ça a continué et c'est vraiment plus les scale-up qui ont pris cher.
Donc, pris cher.
Malheureusement, c'est celles qui sont le plus médiatisées aussi. Et le problème, c'est que les médias souvent vont parler que des boîtes qui lèvent et pas forcément des boîtes qui sont en autofinancement ou en tout cas qui font autrement. Du coup, ça donne une image de marché qui est directement corrélée avec le fait que les scale-up vont mal, quoi.
Et aussi, j'imagine aussi simplement les scale-up, c'est quand même les boîtes qui sont les plus connues dans, on va dire, du grand public aussi, tout simplement, hein, au-delà du monde de la tech, hein. Donc je pense qu'aussi, ouais, c'est ça l'intérêt, c'est qu'en fait on voit ce que, enfin, tout le monde, monsieur tout le monde ou madame tout le monde voit uniquement ces boîtes là en gros qui ne marchent pas, quoi, qui perdent de l'argent.
Les journalistes, ils font les gros titres avec des sujets sur Payfit, Blablacar, Backmarket. Ouais. La petite boîte, ouais, qui a levé 2 millions, si t'es super intéressé, ouais, par le business des startups, tu vas l'avoir passé. Sinon, Madame Michu, elle s'en fout, quoi.
Et encore, même quand t'es intéressé dans mon startup, y en a tellement que tu peux passer à côté, quoi, hyper rapidement.
Et comment par exemple, chez Yield, on a ressenti ça? Est-ce qu'il y a eu un avant 2023 et un après 2023 ou pas, au niveau des clients qu'on a... avec laquelle Yield a pu bosser potentiellement?
Y a clairement eu une différence sur les leads entrants, puisque pendant la période Covid, qui était aussi notre période de lancement, hein, on s'est lancé en 2019, donc in fine on s'est lancé en plein dans la période Covid, on avait quand même beaucoup de leads qui étaient souvent des petites startups ou des startups qui allaient lever des fonds. Là où aujourd'hui la tendance, c'est plus... on travaille beaucoup plus avec des PME, des ETI, et les startups sont un peu à la marge. Déjà parce que souvent, quand elles lèvent des fonds, elles vont aller recruter une équipe tech, parce que bien souvent, quand elles ont de la tech, c'est leur valeur principale. Donc naturellement, ça fait sens d'aller recruter son équipe tech. Et surtout parce qu'aujourd'hui, quand tu vas voir ton fonds et que tu lui dis que globalement, 60% de ton cash va partir chez un prestataire, là, ils te regardent mal. Donc en fait, aujourd'hui, la tendance, quand tu veux lever des fonds, elle est d'avoir un CTO, parce qu'on te regardera bien mieux si tu as un CTO. Et si tu es maître de ta tech, quoi.
Ouais, complètement. Et la valo des boîtes, c'est aussi la tech. Donc, si tu l'as fait en externe. Mais...
Ce qui est un peu dommage, parce que ça pousse aussi les founders, donc qui ne sont pas tech souvent, à être dans cette recherche d'un CTO et du coup à prendre un peu n'importe qui en CTO. Alors qu'in fine, ça reste un choix qui est hyper structurant pour une boîte. Et tu ne prends pas le premier tech venu en tant que CTO.
C'est la grosse erreur qui peut tuer ta boîte. Voilà. Day one.
Un CTO, c'est un entrepreneur, c'est pas un tech à la base. Pour moi, le problème, il est là. Quand tu vois des gens qui postent une annonce en disant qu'ils cherchent un CTO, déjà, il y a un problème.
Ouais. Et je rejoins vachement ton analyse. Et chez TPC, on a vu aussi une évolution des clients. On bossait avec énormément de scale-up, aussi beaucoup de start-up. Et on est passé sur un mix hybride avec des PME, des grands groupes qui se digitalisent et des start-up qui montent leurs équipes. Parce que nous, on les aide justement à recruter plutôt en CDI. Mais ouais, les scale-up sont sortis complètement du paysage en 2023 et je pense qu'elles reviendront, mais pas tout de suite.
D'ailleurs, ouais, c'est une question que je me posais. Tu penses qu'ils vont venir, comment ça va se passer? Est-ce que tu penses que c'est la fin ou tu penses que c'est quelque chose qui va repartir? Enfin, si je ne demande pas de faire une prédiction non plus, tu vois. C'est pas l'objectif, yes. Mais
attention, t'écouter.
comment toi, ta vision par rapport à cette question-là? Et ensuite, on passera peut-être sur le sujet un peu du marché de l'emploi, en fait, comment les salariés aujourd'hui se retrouvent, comment réagissent face à ce marché-là, à ce comportement-là? Mais aujourd'hui, déjà, en premier temps, ta vision 2024-2025, c'est laquelle?
Justement, ouais, sur les perspectives, le grand message, je pense, de cette enquête sur vraiment les directions, c'est qu'on est déjà dans une reprise. Il y a déjà des signaux d'une reprise, mais ce n'est pas la reprise explosive que certains attendraient, comme c'est bon, we're back, tu vois. Ouais. On n'est pas okay. Sur un redémarrage fusée, to the moon.
C'est pas non plus ce qu'on veut, je pense. Pour le marché, c'est pas forcément ce qu'on veut aujourd'hui.
Complètement. Et donc, pour vous donner des chiffres plus concrets, là, on a 3200 personnes qui nous disent que dans leur boîte cette année, 49% des 3200, ils nous disent que dans leur boîte cette année, ils vont recruter. Donc, c'est un super niveau.
Enfin, c'est un super message. On a en gros une boîte sur deux aujourd'hui qui cherche à recruter.
C'est ça. Recruter. Et pour les boîtes qui annoncent qu'il va y avoir des licenciements cette année, il n'y a que 4% des répondants qui disent dans ma boîte, cette année, on va licencier. Donc, par rapport à un contexte de crise, on est clairement sur une sortie de crise, là, et un redémarrage. Donc ça, c'est assez cool. Et sur le sujet des devs, tu as 51% des gens qui disent dans ma boîte, on galère à recruter des devs.
Okay. Donc ça reste toujours.
Ça
en
reste
fait.
Ouais, super dur.
Mais est-ce que je t'en prie.
Pardon, est-ce que dans les participants, vous avez des C-level qui ont répondu ou c'est essentiellement.
Ouais, tu as 35% de tous les répondants qui managent des équipes de 1 à 5 personnes et jusqu'à du 50 personnes.
Ok, donc c'est super intéressant aussi.
Ouais, tu as un tiers, c'est des hiring managers jusqu'à des C-level. Et notre communauté, en gros, on a assez peu de juniors dans la communauté parce qu'elle est sélective à l'entrée et tu es sélectionné sur ton expérience. Et tu as grosse communauté de head-off et de C-level dans la communauté. Et du coup, ça nous donne vraiment une visibilité. Enfin, vous pourrez du coup regarder dans les chiffres un peu quand on vous partagera tout ça. Vous verrez un petit peu les dynamiques, mais c'est vraiment intéressant aussi de voir l'avis des managers.
Beaucoup de verbatim. Rester branché, TBC va partager. On vous mettra en fait sous le lien de la vidéo en fait, le lien pour pouvoir voir le résultat de l'enquête. D'ailleurs, c'est une question intéressante et je pense qu'il y en a plus d'un qui attend cette question-là. C'est aujourd'hui, est-ce que il faut rester au chaud ou on peut songer changer d'emploi? Parce que quel a été le retour par rapport à ça? Est-ce qu'il y a moins de mouvement? Est-ce qu'il y a toujours autant de mouvement? Est-ce que les techs ont tendance à rester plus sur leur poste? Est-ce qu'il y a plus de freelance? Parce qu'on dirait que c'est aussi la mode. C'est un peu contrastant en fait. C'est un peu paradoxal parce qu'on dirait qu'il y a de plus en plus de freelance sur le marché. C'est devenu un peu une mode. Mais de l'autre côté, on dit qu'on a du mal à recruter. Comment toi tu interprètes ça en fait?
Ouais. Bah, déjà sur ta question, est-ce qu'il faut rester au chaud? Ça dépend un peu de ta situation. C'est intéressant justement de regarder un peu les pratiques salariales parce que quand on regarde qu'est-ce qui donne envie aux gens de bouger, c'est la REM, mais de loin.
Ok.
C'est la REM, mais genre très très haut numéro 1.
C'est pourtant, intéressant parce que ouais. Post-Covid, on était arrivé dans, un peu dans une ère où justement les gens commençaient à en avoir un peu... Enfin, à être plus indifférents à la rémunération pour avoir justement plus de temps libre, des conditions plus agréables, etc. Et là, globalement, la tendance, c'est que ça repartirait vers, vers ce côté-là.
Ce qui est hyper intéressant, c'est quand tu demandes aux gens « Est-ce que vous voulez partir ?» Là, dans l'étude, il y a 50% à peu près, 1 sur 2, qui dit « Je vais me casser dans les 12 mois ».
Alors, je vais regarder Mathieu et Arthur.
Parce que j'aurais attendu.
Dans un an, un des deux sera plus là. Prédiction, boule de cristal. Non, mais du coup, tu en as 1 sur 2 qui te dit oui, 1 sur 2 qui dit « Non, moi, je reste ». Celui qui te dit « Oui, je vais me casser », là, il dit « Je vais me casser pour une meilleure REM », loin devant. Par contre, celui qui veut rester, il ne veut pas rester parce qu'il a une super bonne rémunération. Il veut rester parce qu'il a du challenge. Et je vais retrouver le deuxième élément, mais c'était... Ah non, je crois que je ne l'ai pas. Mais en gros, c'est du challenge et...
Responsabilité peut-être ou...
Ce qui serait intéressant, c'est de savoir...
Monter en compétence, c'était monter en compétence. Okay. En gros, j'apprends. Je continue à apprendre.
Ce qui serait intéressant, c'est de savoir si la personne qui veut se barrer pour une REM plus élevée, est-ce qu'elle le veut à condition égale ? Ou est-ce qu'elle est prête à avoir des conditions amoindries ?
C'est-à-dire tu vois, par rapport à quoi ?
Je sais pas, on prend l'exemple que ce soit des conditions de télétravail ou alors de
des avantages, de
l'ambiance, enfin voilà, tout ce qui fait un peu que tu te sentes bien dans une boîte. Est-ce que les gens sont prêts à partir pour une REM plus élevée mais des conditions moins intéressantes ou pas ? Parce que justement la tendance s'était inversée, alors enfin avant le Covid. Les gens, globalement, ils s'en foutaient un peu de l'ambiance, ils voulaient juste leur REM, ils allaient au taf, etc.
Ouais, peut-être parce qu'après, on a connu aussi le travail à la maison.
Ouais, mais surtout aussi, tout le monde s'est rendu compte que le taf prenait une partie trop importante dans la vie de beaucoup de personnes et que tu avais besoin d'avoir du temps pour toi, etc. Et avoir, mine de rien, être enfermé pendant 3 mois chez soi, ça te donne le temps de prendre...
Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que tu dis qu'en fait la première raison pour ces 50% de personnes qui veulent changer d'emploi, c'est la REM. Aujourd'hui, le télétravail en fait. Ouais, parce que alors... c'est vrai que c'est une grande question parce que aujourd'hui ils veulent tous, enfin 50% veulent partir pour la REM, mais est-ce qu'ils seraient prêts à retourner en présentiel ? Et quel est le. Enfin, je sais pas si l'enquête apporte sur ça aujourd'hui, quelle est l'attitude des entreprises par rapport à cette reprise ? Et face au fait que le marché est quand même tendu pour recruter des profils quand même intéressants par rapport au télétravail. C'est quoi leur politique ? C'est quoi leur motivation ?
Le télétravail, il y a des datas super intéressantes là. Déjà, sur l'évolution en gros des pratiques. Parce qu'en fait, tu peux regarder les choses de deux manières. Tu peux regarder ce qui se passe du côté des talents aujourd'hui. Et du coup, on l'a dans l'étude. Aujourd'hui, c'est quoi votre rythme ? Concrètement, dans votre taf. Et tu peux regarder côté entreprise. Ok, je recrute, mais est-ce que je suis ouvert à du full remote ? Pour quel type de job, etc. Et ce qu'on a vu, c'est que chez TPC, donc on bosse avec à peu près 800 entreprises. En 2022, sur 100 jobs ouverts, on avait 71 où la boîte nous disait « Je suis ok pour un full remote ». 71%. Donc vraiment quasiment, enfin une grosse majorité. Ils sentaient qu'ils n'avaient pas le choix, quoi. 2023, ça tombe à 29%.
Ah oui. Mais c'est intéressant parce que tu sentais qu'ils n'avaient pas le choix. Ouais. Donc c'était conjoncturel, quoi.
Complètement.
Ok.
Complètement.
C'était conjoncturel et c'était aussi le marché qui l'existe. Enfin, en tout cas, quand on parle du marché de la tech, nous, on l'a vu parce qu'à la base, on n'était pas pour le full remote. Pour plein de raisons, en fait. Je pense que c'est une histoire d'état d'esprit. On a quand même ce côté très humain chez nous. Enfin, c'est plutôt vous, d'ailleurs, qui pourrait en parler. Mais qui est hyper important pour nous. Et qui est difficilement compatible avec le full remote. Ou alors, comme on l'a fait aujourd'hui, il faut réussir à mettre effectivement des événements en place qui permettent de créer des liens. Mais sinon, de base, c'est compliqué. Sauf que quand tu as affaire en fait, à des candidats qui sont là en mode « s'il n'y a pas de full remote, globalement, je ne fais même pas le premier entretien », en fait, tu n'as pas le choix.
Ouais. Ouais, là, tu n'as pas le choix. Et puis, j'ai eu cette conversation-là, et puis je te laisserai reprendre, Mathias, sur full remote et présentiel. C'est qu'en fait, oui, c'est... t'essaies de faire du présentiel en full remote, ça ne marchera pas. Ce n'est pas le même type d'organisation, ce n'est pas le même type d'entreprise, ce n'est pas le même type de communication. C'est-à-dire et c'est là où je trouve qu'il y a un peu on a un peu en retard ici en Europe, dans le sens, un peu moins en Angleterre, j'ai l'impression, où on essaie de faire du présentiel en full remote. Mais je pense qu'il ne faut pas essayer de faire ça, en fait. C'est juste une organisation totalement différente, en fait. C'est juste que les boîtes qui ont une organisation full remote, ils communiquent, ils s'organisent leur interaction, elle est basée sur ce modèle-là. Mais les boîtes qui essaient de faire du présentiel en full remote, bah, c'est, ça finit en dérive totale. Mmh. Et je pense que c'est là où peu de boîtes sont préparées ou ont compris ça, en fait. Et je pense que c'est un biais. C'est un biais que beaucoup de boîtes ont et que beaucoup de collaborateurs ont aussi.
Après, après aussi, c'est intéressant sur les chiffres, et notamment pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Je me demande aussi simplement, est-ce que les... Enfin, déjà, ils étaient peut-être un peu obligés aussi de faire du full remote, mais peut-être qu'aussi, ils sont tous dit, bah, peut-être qu'on va tester. Et en fait, là, la preuve est que, tout simplement, peut-être que ça ne marche pas pour la plupart des entreprises aussi. Au-delà de l'organisation, il y a peut-être aussi le produit en lui-même, il y a aussi les équipes en elles-mêmes, les fondateurs, bien sûr, aussi. Mais tout le reste des métiers qui peuvent être aussi dans l'entreprise, qui ont besoin d'avoir les gens en présentiel. Donc, ouais. Ça peut être un avantage pour les techs, mais si on sort du côté tech, il y a d'autres métiers dans une entreprise. Ils peuvent peut-être avoir besoin des gens.
Typiquement, si on prend le produit... Nous, ouais. Chez nous, on a fait le choix de ne pas avoir de full remote. Alors, pour un peu parler de notre orga, les techs, globalement, sont en full remote.
Et Dave, du
toute
coup.
La boîte se retrouve 2 jours par mois à Paris. Donc, c'est un moment où on est un peu moins productif. On en profite aussi pour avoir des échanges un peu plus informels, pour avoir un after work, etc. C'est des moments qui sont importants. Mais on a fait le choix pour les profils product de ne recruter qu'à Paris. Et d'avoir 2 jours de CT par semaine. Parce qu'on considère que pour le produit, on arrive bien plus à utiliser notre intelligence collective, à être productif en étant ensemble, en discutant. Là où pour la tech, effectivement, c'est un métier où tu as besoin de beaucoup collaborer, mais tu peux un petit peu plus te permettre d'être solo à des moments.
Produit et design, du coup.
Product et design chez nous sont du coup en présentiel la majorité du temps. Ce qui fait que sur le dev, la tech, donc on recrute vraiment dans toute la France, et sur la partie plus product et design, on recrute surtout à Paris.
Ok, c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que à votre avis, du coup, si on prend l'étude, t'as 1 millier de devs, t'as plus de 1000 product. Quelle proportion, à votre avis, des devs est en full remote aujourd'hui versus les product?
Sur combien de devs?
Je pense que c'est 40 vs 20 ou à 40% et 20%.
T'as un dev sur 4.
Ouais.
Un dev sur 4 et en remote.
Full remote.
Ouais, full remote.
25% seulement.
Complètement remote. 25%. Ouais.
Okay, on parle pas de un jour présentiel, on parle de full remote. Donc tu considères, donc on considère que même nous on n'est pas en full parce qu'on vient une fois par mois.
Non, nous on est un peu hybride.
Ouais, c'est ça. Ouais. Mais genre full remote, genre totalement.
Je pense que dans les boîtes où les gens sont en full remote, ils se déplacent tous les 2 mois ou tous les 3 mois. Enfin, il y a quand même ce côté-là.
Ouais, mais c'est pas récurrent. Je pense que c'est vraiment ponctuel. Ouais.
Ils pouvaient le déclarer, tu vois, genre les devs qui pouvaient. Enfin, si tu répondais à l'enquête, ils pouvaient dire je viens juste quelques jours par mois.
Ok.
Là, vraiment, full remote, c'est 25%, donc 1 sur 4. Pour les products, c'est 1 sur 10, même pas.
Ouais.
1 sur 10.
Ouais, et il y a une tendance, et c'est une tendance qu'il ne faut pas nier aussi, c'est que chez les techs, chez les devs, il y a vraiment un mouvement de fronde. Et vraiment, les développeurs ne veulent plus, ils refusent les postes, pour même peu importe le montant. Si c'est pas full remote, t'es 80, 90K, 100K. Moi, j'ai des amis à moi qui ont refusé des postes. J'ai refusé des postes pour des salaires beaucoup plus élevés. Et donc, c'est vrai que c'est un gros avantage pour une entreprise qui propose aujourd'hui le full remote, et c'est une vérité, parce que la France, quoi qu'on en dise, parce qu'on regarde dans les chiffres, c'est pas Paris. La France, c'est pas Paris. T'as la Bretagne, t'as le Sud-Ouest, c'est grand, et c'est vrai que si on vient tous habiter là, ça risque d'être un peu contraignant.
Après, je pense qu'il faut aussi analyser les raisons de pourquoi les devs, justement, veulent du full remote, parce qu'il y a les intérêts des individus, il y a les intérêts des entreprises, et je pense que souvent, beaucoup ont tendance à oublier que t'es là en tant qu'individu pour servir tes propres intérêts, mais in fine, tu dois aussi servir les intérêts de l'entreprise dans laquelle tu travailles. Du coup, faut pas oublier que t'es pas là solo, et je trouve ça triste d'exiger du full remote à 100% avant même d'aller regarder si en fait l'entreprise, ça se trouve, tu pourrais être hyper épanoui dedans, tu vois. Et il y a un peu une tendance là-dessus à faire l'apologie. On va parler des pseudo-influenceurs LinkedIn. Moi, il y en a certains, franchement, qui me rendent dingue, mais on va pas les citer. qui font l'apologie du freelancing en disant que tu vas gagner 10 000 euros par mois, que tu seras en full remote, que tu iras jamais dans les bureaux.
Et qui parlent pas des avantages d'être en freelance aussi. Hein.
Je pense qu'en disant ça, on voit très bien de qui je parle. Ouais. mais en fait, je trouve ça triste parce que déjà, c'est pas une réalité. C'est un mensonge. Il y a peu de freelance qui ont ces conditions-là.
Après, encore une fois, c'est une question de point de vue, faut pas oublier, chacun a ses propres intérêts, chacun cherche aussi dans le full remote ou pas forcément avec le full remote ce qu'il veut aussi.
Coup, quand tu fais l'apologie d'un truc, faut pas oublier d'apporter un peu de nuance. C'est bien d'être clivant,
C'est le principe d'être influenceur sur LinkedIn. Plus tu es clivant, plus tu as des gens qui te suivent.
Mais là, le sujet, c'était pas le freelancing, c'était le full remote.
Ouais.
Non, mais du coup, voilà. L'apologie du full remote est souvent liée à l'apologie du.
Non, mais aujourd'hui, parce que ça pousse des gens à passer freelance parce qu'ils n'arrivent pas à trouver le job. D'ailleurs, tu veux un hack pour recruter des devs aujourd'hui et t'as pas le super salaire, t'as pas la boîte ultra sexy.
Freelance.
Mais non, full remote.
Full remote. Ah ouais. Ouais. Pour moi, c'est deux.
Deux pour du full remote. Mais laisse tomber, tu x10 le nombre de postulants à ton offre. Quoi. C'est le hack si t'as pas de moyens et pas de notoriété. Quoi,
ouais. Exactement. Ouais. Ok. Bah, c'est cool, en tout cas, pour ce feedback-là. Et j'aimerais qu'on bondisse sur. Je sais pas s'il y a un autre chiffre qui pourrait être intéressant. Peut-être les salaires. Est-ce que moi, c'est une question qui me peut-être pas donné des chiffres précis, mais est-ce qu'il y a eu une stagnation des salaires entre l'année dernière et cette année, et, ou est-ce qu'il y a une augmentation quand même? Il y a, enfin, je pense que c'est quand même un indicateur assez parlant de pouvoir essayer de comparer un peu les salaires ou la tendance des augmentations de salaires plutôt entre 2023 et 2024, ou peut-être 2022, 2023 et 2024. Et est-ce que tu as eu des insights ce concernant?
Oui, alors, si tu veux, c'est la deuxième année, donc on n'a pas les chiffres. De l'année dernière, est-ce que c'était une augmentation ou pas? Je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est sûr que sur les 10 dernières années, tu avais des grosses croissances sur les salaires, aussi bien côté dev que product, avec des excroissances totales sur certains recrutements. Tu étais là, ah ouais, vous mettez ce chèque là, les gars. mais globalement, le signal, c'est ça ne s'est pas pété la gueule. On a une petite augmentation. Mais vraiment, c'est normalisation. En gros, fini la teuf.
OK.
Les gros salaires incroyables, c'est terminé. Les augmentations de fou, c'est terminé. Donc, concrètement, ce qui s'est passé cette année, c'est qu'il y a une personne sur deux qui a été revalorisée. C'est à peu près autant que l'an dernier. Deux points de moins, on est sur 52% cette année, 54% l'an dernier, qui ont reçu une augmente. Mais les augmentes étaient moins grosses. Et après, sur les salaires globaux, sur les devs, on est à plus 0,7% environ, donc moins d'1% d'augmentation par rapport à l'an dernier. Les products, c'est un tout petit peu plus, un peu au-dessus d'1%.
Et là, ton pourcentage, c'est le pourcentage d'augmentation du salaire,
ouais.
Ou le pourcentage de personnes qui ont été augmentées?
Si tu prends les salaires déclarés,
ouais,
à expérience équivalente par rapport à l'an dernier, on est à plus 0,7% chez les devs par rapport à l'an dernier.
Ok, ouais, donc c'est intéressant, c'est pas ce qu'on pourrait penser.
Ouais. Et les seuls qui ont un peu tiré leur épingle du jeu, c'est les profils data. Mais presque à plus 4%.
Et c'est pas corrélé à l'IA?
Alors,
tout hasard.
Pour moi, il y a deux trucs, okay, dans la dynamique IA qui sont un peu, franchement, pas forcément très connectés.
Okay.
Le premier, effectivement, c'est l'IA. Donc tous les profils ML Engineer, Data Scientist. Clairement, il y a une hype. Et ils cherchent des profils seniors qui sont expérimentés, sauf qu'il n'y en a pas de masse sur le marché, là, avec 10 ans d'XP dans un truc qui existe, ouais, depuis 5 ans. Et après, il y a une autre vibe un peu plus profonde, je dirais, un peu plus masquée, mais à mon avis, fait autant, si ce n'est plus, que la vague IA. C'est que, comme il y a une grosse injonction pour les boîtes vers l'impact business, la rentabilité, il a fallu que les boîtes, elles se plongent un peu dans la réalité de leur business. Et pour comprendre ça, fallait arrêter l'impulsivité, les décisions un peu au doigt mouillé, etc. Et il fallait regarder concrètement, analytiquement, les dynamiques du business. Et pour ça, tu as besoin de data analyst, de product data manager, de profil un peu data, qui ont la capacité à te donner une dynamique et une image à l'instant T de ton business et t'aider en fait à aller vers la renta et aller vers sortir les insights business qui vont te permettre effectivement de prendre les bonnes décisions vers l'impact business. Et ça, c'est une nouveauté. Je pense que ça va rester post-crise de la tech. D'accord. Et c'est bien.
C'est un comportement qui est ressorti de cette crise de la tech où les boîtes ont voulu être beaucoup plus précises en fait sur leurs actions et donner du sens à leurs actions en se basant sur des informations tangibles.
À fond.
Okay. C'est quanti, si tu veux, du quali, quoi, uniquement.
Exactement. Ouais. Mm-hmm. On n'est plus sur yo les gars, product manager, allez faire 6 mois de discovery et puis vous nous dites un peu, hein, ce qu'on fera. Ouais,
tu fais 2-3 slides et voilà. T'inquiète, c'est par là qu'il faut aller. Alors
j'ai fait 10 entretiens utilisateurs, on lance un nouveau produit, terminé.
D'accord, okay.
Si t'as pas l'impact business sonnant et trébuchant, si t'as pas dérisqué analytiquement ta feature, ça passera pas. Si tu passes un entretien PM et que tu n'as pas du track record avec des chiffres, tu passeras pour un, pour un Marial.
Ouais, c'est arrêter d'avoir un objectif business avec des pourcentages qui sont un peu moyens et vraiment aller dans le concret directement, quoi.
C'est ça.
Ouais.
Et tu le vois dans les études, tous les profils, quand tu leur demandes c'est quoi la compétence qui va te servir en 2024, ils répondent tous business intelligence, impact business, data. C'est ça les compétences qui vont te faire sortir ton épingle du jeu. Parce qu'en fait, on
te
demande.
C'est essentiel.
Ouais. C'est... Parce que si le métier, je pense, du product se tourne de plus en plus vers ça aussi. Hein. Enfin, c'est...
Mais même chez les devs.
Ah ouais, ça, même chez les devs aussi.
La sensibilité
surtout,
business. Hein,
surtout chez les devs aussi. Parce que c'est hyper important pour un tech, mais ça, on y reviendra tout à l'heure, d'avoir une sensibilité tech, une sensibilité business et une sensibilité product. Parce que sinon, en fait, tu peux dev n'importe quoi, ça aura pas de sens. Donc. Et exécuter un ticket, c'est pas le métier d'un dev.
Ok, mais c'est intéressant. D'ailleurs, tu parlais du product. Moi, j'aimerais rebondir sur cette partie-là. Déjà, avant de rentrer sur ce sujet-là, est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur c'est quoi le product ? Parce que je suis sûr qu'on doit avoir autant de définitions que de personnes autour de la table.
Déjà, au moins. Je voulais mettre en avant, par contre, juste, c'est hyper intéressant parce que vous avez quand même réussi à avoir un bon taux de participants féminins. Du coup, c'est dans la communauté aujourd'hui, il y a une bonne parité quand même.
Alors, ça, c'est
dans votre communauté.
Ouais, effectivement, t'as quand même un tiers de femmes, un peu plus, qui ont répondu à l'enquête. Ouais. Alors, si tu le regardes par métier, c'est assez drôle parce que
j'ai vu après.
Tech, 90% de mecs. Design, 50% de meufs. 55% de meufs. Je crois que product, on est à peu quasiment c'est à l'équilibre.
Ouais.
Et data, c'est un tiers, deux tiers. Donc, il y a des réalités assez variables en fonction des métiers.
Ouais, le design, c'est pas choquant, on le sait.
C'est pas sûr. Le
product,
aussi,
c'est un peu plus, c'est un peu plus étonnant. C'est bien.
Ouais. Product, ça m'étonne pas non plus. Hein.
Mais la tech, c'est choquant pour le coup.
Ouais, c'est...
Mesdames, formez-vous aux devs.
Ah, mais d'ailleurs, on voit qu'elles sont de plus en plus valorisées, justement. Enfin, c'est pas une légende, le founder qui dit « Bon, les gars, là, maintenant, dans mon équipe tech, je vais favoriser les profils féminins parce que ça pèse aussi sur la dynamique d'une équipe. Il faut un peu de...
C'est hyper important. Et puis après, quand tu te retrouves avec une équipe de 15 techs où t'as que des mecs, franchement, c'est pas idéal. Déjà parce qu'à partir de là, va recruter des femmes qui vont vouloir rejoindre une équipe de 15 mecs. Quoi. Donc la question, c'est bien de se la poser tôt aussi. Quoi.
Ouais.
Mais nous, on sait que on a eu très très peu de candidats féminins sur toutes les offres qu'on a mis. Genre, des femmes en entretien, on a dû en avoir... Ça doit représenter même pas 5%. C'est vraiment peu.
Postuler.
Ah non, c'est sûr. C'est compliqué. Et aussi, sur les salaires, on voit qu'il y a un écart aussi.
Je vois qu'il y a un écart de 10%.
Je pense pas que ça soit inhérent au domaine de la tech. Je pense que c'est inhérent...
Oui, bien sûr, mais ça reste quand même énorme. Ouais.
Mais est-ce que dans les salaires, vous avez pris en compte le fait que potentiellement, il y a plus de femmes qui sont en temps partiel ou en 4-5e ou...
Alors non, okay. On a lissé par niveau d'expérience quand même. Donc en gros, c'est pas impacté. On a débiaisé le niveau d'expérience parce que t'en as qui vont te dire ouais, mais en fait, les femmes dans la tech c'est plus récent, donc elles ont tout un niveau d'expérience. Mais c'est vrai que par contre, effectivement, t'as des femmes qui sont plus touchées par le temps partiel ou qui demandent plus du 4-5e. Et ça, on l'a pas demandé dans l'étude. Donc peut-être que ça impacte effectivement.
Parce que il y a pas longtemps, c'est Combini ou Brut, je crois. Qu'on postait justement, qu'on fait une étude ou qu'on analysait, je sais plus, mais en gros, ils analysaient ça. Et en fait, quand tu ramènes le temps de travail à l'identique, l'écart entre les salaires se creuse, enfin devient beaucoup moins important. Je crois qu'il était quasiment divisé par deux, tu vois. Donc en fait, tu passes d'un écart moyen en France qui, je crois, est autour de 20%. Enfin, annoncé autour de 20%, qui passe entre 5 et 10%. Je ne sais plus exactement combien il passe, mais c'est hyper intéressant.
Ça, c'est tous les domaines, donc à revoir aussi par rapport à la tech. Quoi.
Ouais, c'était dans tous les domaines.
Je pense que s'il y a beaucoup le stéréotype du développeur qui est un mec un peu avec sa capuche aussi, de manière générale. Donc je pense qu'il faut revoir aussi dans la tech.
C'est toi qui as ta capuche au bureau souvent.
Ouais, c'est vrai, et moi je suis pas un dev.
Le product avec le bonnet, la capuche d'Arc Arthur. non, mais en tout cas, je pense que ça peut aussi expliquer un écart. Peut-être pas après, mais
ouais, la question, si tu veux résoudre cette équation, c'est peut-être pas de dire les boîtes doivent payer plus les femmes. Ou, peut-être que c'est aussi une question de politique vraiment globale, tu vois, de compenser le fait que pourquoi elles sont à temps partiel. Souvent, c'est parce qu'elles ont plus la charge des enfants. Ouais. Voilà. Après, j'ai pas d'expertise là-dessus, mais j'ai lu beaucoup d'hypothèses.
Après, est-ce que ça justifie un écart ? C'est encore une autre question.
Ouais, exactement. Et puis, on voit effectivement que plus tu avances en seniorité et plus l'écart se creuse. Et c'est souvent... Enfin, la grande hypothèse, quand j'ai lu des études de salaire plus général, pas juste sur la tech, c'est effectivement qu'à un moment, les femmes font des enfants et c'est le moment où elles perdent, en fait,
L'accès à des postes peut-être plus élevés aussi, ouais, également.
Ouais, c'est aussi un moment où potentiellement, elles prennent une pause. Du coup, leur carrière est en pause, avance moins temporairement.
C'est ça.
Forcément,
qu'est-ce que c'est la responsabilité des entreprises de compenser ça ? Est-ce que exactement. Ouais,
je pense que c'est la responsabilité des entreprises.
Mais c'est bien de le savoir en tout cas. C'est bien de faire l'état des lieux et de dire ok, maintenant il y a 1000 solutions, mais faut pas oublier qu'effectivement il y a un décalage aussi de revenus.
Okay.
À expérience équivalente.
Ok. Je rebondissais tout à l'heure. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Yes. sur l'impact que 2022 ou 2023 ont eu sur les métiers du produit. Je te pose cette question-là parce que déjà en premier temps, j'aimerais qu'on se mette d'accord sur qu'est-ce que le product. C'est une question un peu qu'est-ce que la qualité logicielle. C'est une question un peu vague qui mérite plus qu'une simple réponse. Mais j'aimerais bien qu'on fasse un petit... tiens, je pourrais commencer par toi, Arthur.
J'étais sûr que tu allais me la poser en premier.
Évidemment, t'es le PM. Pour te donner un peu ta définition du product et un peu qu'on se mette juste d'accord sur ce que c'est. Enfin, qu'on se mette d'accord au moins autour de la table.
Ouais. Déjà, je vais te poser une question pour répondre à cette question. Ouais. Quand tu dis product, t'entends quoi exactement ? Parce qu'il y a le métier product, il y a le product management, est-ce que c'est le product engineer, le product design, va être très large.
Voilà, déjà, il y a plusieurs silos, donc. Il y a plusieurs silos du product, c'est ce que tu es en train d'expliquer. En tant que métier, en tant que product manager, aujourd'hui, c'est quoi ton... Qu'est-ce que tu vas traiter aujourd'hui ? Le product de product manager, voilà.
Globalement, moi je pense, si on fait d'un point de vue très global, sans rentrer trop dans le détail, encore une fois, c'est très spécifique déjà à l'entreprise, à l'équipe, on en parlait un peu avant. Je pense que c'est un peu un métier qui est un peu un métier glue. Product manager, c'est celui qui va quand même être en lien avec la plupart des autres métiers, qui fait pas forcément de l'opérationnel, mais qui quand même a une vision globale surtout, et prend des décisions par rapport à ça. Et lui, son travail, c'est tout simple. Hein. Au début, on est quand même dans un business, donc on va comprendre des objectifs business. On va se fixer ça avec soit la partie business d'entreprise, soit avec ses clients, si directement on est externe, par exemple comme Yield Studio, on peut l'être. Et ensuite, après, on va essayer de traduire ça en conscient les besoins d'un utilisateur aussi, aux équipes que j'appellerai un peu de production, qui vont être le design, le développement, et en faisant un peu le lien entre toutes ces équipes. Et aussi faire comprendre au business quelles sont les problématiques qu'on peut avoir aussi direct, parce que des fois, il n'y a pas de temps ou la faisabilité, en tout cas, c'est compliqué en tout cas de réaliser certaines tâches. Mais voilà, globalement, c'est un peu un lien, c'est un peu une glue entre tout ça.
D'accord, ok. Donc on pourrait... Est-ce que product manager, product designer, est-ce que product designer, c'est pas plus approprié dans ces cas-là ?
Alors product designer, c'est un peu autre chose. C'est pour ça que je parlais product engineer, c'est que de manière globale, je pense que le product management, il est un peu en train de... C'est une méthode de travail. C'est un peu une vision de comment travailler qui va un peu arriver dans tous les métiers. C'est pour ça qu'on prend de product data, product design, product engineer. Certes, c'est un peu aussi à la mode, donc on l'entend de plus en plus. Hein. Mais l'idée, c'est que les pratiques et les visions du travail product management vont rentrer dans tous les différents métiers. C'est ce que disait par exemple James tout à l'heure avec les développeurs qui doivent commencer à avoir une vision produit. Maintenant, tu ne dois plus juste exécuter, tu dois réfléchir à pourquoi et même derrière influencer toutes les décisions produits qui vont en découler.
Ok. Évidemment, je vais te poser la question aussi, Mathias.
Allez, débat.
Est-ce que déjà, tout d'abord, tu es d'accord avec la définition qu'a donné Arthur ?
Tu veux créer du fight, Mathieu ?
Non, parce que déjà, savoir un peu si on a une définition identique de ce que c'est le product management ou le product.
Je suis assez d'accord, ouais, non. Franchement, je suis d'accord. Mais c'est vrai que c'est une question que j'adore et que je déteste en même temps, parce que tu demandes à 100 PM, c'est quoi le product ? T'as 100 définitions différentes. Ouais, c'est ça. Et l'autre truc, c'est que personne n'arrive à l'expliquer clairement à son grand-père ou à des enfants.
Vraiment, on va expliquer un métier qui vient d'être inventé.
Exactement.
Hyper dur.
Et il y a une dimension, effectivement, qui est super holistique. Ça, j'aime bien ce dont tu parles là. En fait, elle s'infuse, la dimension product, dans des entreprises tech. Elle doit s'infuser à tous les niveaux, en fait. Mm-hmm. Et ça, c'est un élément hyper important. quand j'essaie d'essentialiser un petit peu la fonction produit, la raison pour laquelle elle existe, je pense qu'elle a, elle a l'intersection de deux éléments hyper importants dans toute boîte tech, c'est le business, évidemment, et la technologie. Mmh. En fait, la fonction produit vient s'insérer entre les deux, et pour moi, elle a deux missions. La première, c'est d'apporter de la cohérence entre la tech et le business, et c'est pas forcément évident.
Ouais, manière de parler tech et business, aussi.
Ouais. Ouais, communication compliquée, donc c'est pour ça aussi que la fonction product est apparue. Et la deuxième chose, c'est l'impact. Apporter de l'impact. Parce qu'une boîte, c'est pas une asso. Et donc, comment est-ce que tu choisis où est-ce que tu vas avoir de l'impact, et comment est-ce que tu vas prioriser les projets, les faire avancer, les délivrer. Donc voilà, pour moi, c'est cohérence et impact à l'intersection du business et de la technologie.
Je veux bien revenir dessus, c'est intéressant. Il y a aussi cette notion un peu de dérisquer. En vrai, le produit va énormément aider parce qu'avant, quand on avait beaucoup de cahiers des charges, on va dire, bah, tu avais des énormes budgets qui étaient alloués directement et des équipes dev qui ne parlaient pas pendant 6 mois, 1 an, en tout cas avec les utilisateurs. Et en fait, bah, ça fait perdre énormément d'argent. Alors que justement, quand tu travailles de manière un peu plus, on va dire, product, du coup plus agile, même si ce terme est un peu interdit aujourd'hui, du coup avec de l'itération, tu peux beaucoup plus facilement dérisquer et au final perdre moins d'argent et faire gagner du coup plus d'argent aussi au côté business, quoi.
D'accord, ok. Ok, intéressé d'avoir ta vision aussi, James, aujourd'hui. Qu'est-ce que toi, t'attends aujourd'hui d'un PM, son rôle aujourd'hui, encore plus aujourd'hui en fait, quand on sait, bah, quand on se base sur ce que tu disais tout à l'heure, et je suis assez d'accord sur ça, où on attend à ce que les développeurs, les techs aient cette sensibilité aussi business, parce que pour être sensible aussi à, enfin pour améliorer un peu l'interaction PM et équipe tech, il faut avoir cette sensibilité-là pour pas rentrer dans un espèce de silo et, comme tu disais tout à l'heure, être juste des exécutants. Mmh. Aujourd'hui, voilà, qu'est-ce qu'on va attendre aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on va attendre des techs aujourd'hui, potentiellement, parce qu'ils interagissent directement avec le PM, pour avoir une interaction et que ça infuse correctement, en fait, aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on attend d'eux ?
Déjà, je suis assez d'accord avec vos deux visions. J'ai bien aimé l'image de glue, d'un lien. Pour moi, c'est ça, un product. Je pense que le métier de product, c'est un métier que tout le monde doit incorporer à son métier. En tout cas, pour moi, c'est essentiel. Aujourd'hui, on n'est plus dans une ère, mais peu importe en fait le domaine, le secteur, on n'est plus dans une ère où le fait d'être dans la simple exécution fonctionne. Je pense que tout le monde doit essayer de mettre un peu du sien pour aller plus loin que juste d'exécuter et pour comprendre, etc. Mais le rôle pur de product, pour moi, il est juste là parce que dans une boîte, tout le monde a beau porter ce rôle, personne n'en a la responsabilité par définition. Donc le fait de mettre des personnes à la tête de ce rôle, ça permet effectivement de faire le lien, d'apporter de la cohérence, etc. Mais ça permet aussi de réunir justement la tech, le design et le business et d'aligner leurs intérêts. Parce que s'ils n'ont pas les mêmes intérêts, s'ils ne savent pas pourquoi ils agissent, typiquement les objectifs business, tu vas dans plein de boîtes, tu vas parler à des techs.
Ils ne savent pas vraiment pourquoi ils font.
Ils ne savent même pas ce qu'ils font, ils ne comprennent pas. Et donc le problème, il est là. Donc pour moi, ouais, les products, ils sont vraiment là pour réunir la tech, le business et le design, pour aligner les intérêts et pour faire en sorte que tout le monde puisse construire un produit qui soit cohérent.
Mais là, je peux vraiment parler en tant que tech. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, sauf que ça va me ramener à une autre question qui est comment faire en sorte que les entreprises puissent infuser cette idée-là et éduquer les équipes tech à s'intéresser au business simplement, parce que il n'y a pas si longtemps que ça, dans une boîte qui fait de la tech, une grande marque de vêtements, je ne citerai pas son nom, j'ai eu des retours de personnes qui ont bossé dedans et c'est très compliqué. Aujourd'hui, c'est par exemple le business qui va diriger la tech. Mm-hmm. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'ils aient leur mot à dire, mais il n'y a pas de collaboration aujourd'hui. Et ça amène à quoi ? Ça amène à une espèce de guerre, de conflit dans des équipes de plus de 2000 personnes. Et ça devient invivable.
C'est la même guerre que les estimations ou les no-estimations. Mais enfin, c'est...
Le problème, il vient des intérêts. Quand tu es un tech, si tu es un tech et que tu aimes la tech, tu as pour intérêt de faire de la bonne tech. Donc tu veux viser de la qualité. Sauf que ce n'est pas toujours en accord avec le business qui a besoin d'aller vite. Et le business, il a d'accord. Un intérêt qui est principalement non, économique.
J'ai la réponse pour
ça. Ça dépend. Ça dépend de quelle qualité on
qualité
parle.
Qualité et vitesse ne sont pas des termes intéressants.
C'est de la conciliation. En réalité, c'est une relation d'égal à égal. Il faut une conciliation entre les deux.
Mais le problème, c'est que souvent, les deux n'ont pas le même intérêt. Et oui, la qualité aide à la vitesse. Mais pas forcément. Ça dépend de qui cherche la qualité. T'as des gens qui sont trop pointilleux et qui, du coup, vont préférer prendre 3 mois à faire un truc qui sera peut-être plus quali, plus parfait, pour s'approcher de la perfection.
C'est de l'over-engineering.
On est d'accord.
Ce dont vous parlez, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut sortir un peu de ce scope de première étape, en fait. Le truc, c'est que la qualité pour un business, elle n'est pas forcément... Il ne voit pas trop l'intérêt lors d'une première itération. Mais justement, si tu parles de plusieurs itérations, que tu avances... Enfin, au final, en gros, toutes les prochaines itérations iront beaucoup plus rapidement parce que tu auras un socle
ça,
de qualité.
Ça, on est d'accord. En tant que tech, on le sait.
C'est ça, c'est hyper important. Ça ne comprend pas, justement.
Je suis pas tant d'accord. C'est juste que souvent, en fait, comme les intérêts sont complètement différents, d'un côté, tu as des intérêts purement économiques, de l'autre, des intérêts purement techniques, il faut quelqu'un qui soit là pour réaligner les intérêts et faire comprendre que, en fait, les deux vont ensemble. Mais si par définition, tes intérêts sont complètement différents, tu peux pas communiquer.
Je suis 100% d'accord sur le fait, je pense que c'est bien dit ça, le fait qu'avoir des intérêts techniques, purement techniques, et des intérêts économiques, c'est un match qui ça marchera jamais, c'est impossible. Et là, je suis 100% d'accord avec toi.
Et c'est souvent d'ailleurs les PM, PO, PM, peu importe, en tout cas les métiers de product, qui vont faire prendre conscience aux tech qui n'en ont pas encore conscience que le business est important. Et qui vont faire prendre conscience au business que la tech est importante.
Du coup, ça revient à ce qui est aussi le centre du métier, en tout cas des métiers product, qui est la communication et l'alignement en interne dans l'entreprise. Souvent, c'est des métiers qui vont aligner tout le monde.
C'est des métiers un peu politiques, c'est des métiers sociables. Et c'est pour ça que les product, généralement, c'est des gens qui ont la communication facile, etc. Parce que c'est ce pourquoi ils sont là.
Ok. Et Mathias, est-ce que t'as un point de vue sur ça?
Le point sur lequel je voulais réagir, effectivement, c'est que du coup, les product ont une grosse responsabilité avec ça. Et ils ne sont pas forcément toujours aidés par leurs leaders. En fait, si tu veux pouvoir concilier justement le business, la tech, la rapidité, la qualité, il faut savoir ce sur quoi tu optimises en fait, la vision finalement de la boîte, le grand objectif de la boîte. Et là-dessus, les leaders, souvent, ils pêchent un peu à exprimer une vision qui derrière peut être utilisée par les PM et diffusée à toutes les équipes. Si tu es PM et que, et que tu ne sais pas vers quoi... Enfin, ton leadership ne te dit pas vers où aller... En fait, tu vas être complètement du nez et les devs et tout, ils vont se dire, mais attends, mais ce product, je comprends pas pourquoi ils me demandent ça. Et donc, il faut vraiment un alignement au niveau de la boîte sur les grands objectifs, que ça diffuse et que le product, effectivement, soit un vecteur de diffusion de ces messages. C'est pour ça que la fonction product, c'est beaucoup, on parle beaucoup d'influence. C'est aussi pour ça que c'est énormément des soft skills, l'empathie, etc. Et c'est pour ça aussi que les PM, ils ont tous un énorme complexe de, syndrome de l'imposteur.
Tu fais pas de l'opération.
Parce que c'est un métier humain. C'est un métier qui est humain à 200%.
Ouais. Okay. Bah, je peux te le dire, tu vois, 10 000 talents dans la communauté, ceux qui me remontent le plus le syndrome de l'imposteur, c'est les product. Enfin, il y a un vrai truc avec ça.
Ouais, c'est intéressant.
Moi, j'ai déjà eu des débats avec des clients... d'anciens clients qui étaient globalement pourquoi je recruterais un product, les tickets je peux les écrire moi-même. Ouais. En fait, écrire les tickets c'est pas le métier d'un product, ça fait partie de ses tâches.
C'est même pas 10% de mon taf. Quoi,
mais globalement c'est tout ce qui avance et cette communication, etc. Donc c'est un peu triste de voir ça comme ça.
C'est intéressant. Donc, mais c'est intéressant ce que tu dis tout à l'heure, en fait tout part du management. Si on veut avoir un petit peu je vais te dire, comme on dit, la pomme ne tombe pas loin du pommier. J'ai envie de te dire ça comme ça. Dans le sens où, en fait, l'état de la communication ou de l'aura qu'il va y avoir entre les product et les tech, je parle des product et des tech, mais ça aurait pu être des designers et des product et des designers et des tech, on s'en fiche, reflète souvent l'état d'esprit du management, en fait, des leaders dans l'entreprise.
Là-dessus, en plus, si tu veux, tu peux rajouter un concept qu'on kiffe appeler le syndrome Marty Kagan. Alors, ceux qui ne connaissent pas Marty Kagan, c'est un peu le grand prêtre du product management mondial. Il a écrit des bouquins, c'est un écrivain, c'est pas un product, mais il a écrit tous les bouquins sur comment les grandes startups américaines à succès font du product management, ce que l'on appelle le product hollywoodien.
La recette secrète.
Voilà, le truc product parfait, quoi, qui n'existe pas en réalité. Et si tu veux, quand tu commences dans le product, c'est un métier nouveau, tu vas obligatoirement lire Marty Kagan. Et là, tu vas avoir une vision du product vraiment qui est magnifiée. Et en fait, si tu veux, il parle du product management où tu as des leaders incroyables dans ces boîtes qui donnent une vision, qui ont effectivement des méthodes et des frameworks, mais si tu prends juste les méthodes et les frameworks tout seul, ça va pas marcher. Il n'y a pas la vision, il n'y a pas la qualité du management, etc. Et donc, en fait, il faut vraiment se poser la question du leadership. Parce qu'aujourd'hui, chez les product managers, il y a vraiment le syndrome de l'imposteur, le syndrome Marty Kagan, qui fait beaucoup de mal parce que tu sors de ta formation, tu es là, yes, je vais monter des projets, des boîtes à la Airbnb, et tu arrives, effectivement, tu es dans une machine à feature, et en fait, le gap est tellement. La dissonance cognitive est tellement forte qu'il y a limite des états de dépression, quoi. Enfin, franchement, des fois, tu parles avec des product, tu es là, waouh, ok. Effectivement, en fait, c'est. Ce que tu imaginais de la réalité face à la dure réalité qui est complètement
différente. Souvent, t'en as dans leur premier emploi qui se sentent pas pris en compte. Parce que, en fait, moi en tout cas, c'est ce que j'ai pu constater dans certaines boîtes qui sont souvent des boîtes pas très modernes, tu vois. Mais en tout cas, quand elles recrutent un product, au début, il a une place, mais il en a pas vraiment. C'est-à-dire que pour être pris au sérieux, il va falloir qu'il arrive à faire échouer les projets. Pour enfin prouver que ces méthodes sont potentiellement les bonnes.
Ou sinon, il va faire des trucs qui ne sont pas autorisés, on va dire, au début, pour prouver justement qu'il a raison aussi.
Ouais, mais en fait, la problématique, c'est quand tu n'es pas écouté de ta direction, tu ne peux pas faire grand-chose. Surtout si tu es là pour réunir ta direction avec tes équipes. Mmh. Donc, tu dois faire preuve déjà de beaucoup de leadership, comme tu dis, tu dois réussir à embarquer tes équipes et ta direction. Mmh. Mais le truc, c'est qu'il y a plein de moments où, en fait, tu vas devoir simplement laisser les choses se faire pour prouver qu'en fait, bah là, si tu négliges la tech ou si tu négliges le business, ça va dans le mauvais sens. Et après, prouver qu'en faisant d'une meilleure manière, ça aura de meilleurs résultats. Mais je pense que c'est pas une position facile quand tu arrives en tant que product, surtout dans une première expérience où c'est encore très théorique, etc. Et en fait, jusqu'à te rendre compte qu'en fait, c'est un métier qui est purement humain et qui va être basé sur ta capacité à influencer dans le bon sens. Les gens qui t'entourent et à embarquer les gens avec toi.
D'ailleurs, est-ce que c'est une KPI que vous avez remonté chez TPC de qu'est-ce que les répondants pensent de leur management? Est-ce qu'ils trouvent qu'ils ont un management aspirant? Ça pourrait être hyper intéressant d'avoir ça. Hein. De savoir est-ce que les gens sont inspirés par leur management? Parce que je pense que c'est très compliqué déjà. Et on part avec un problème si on n'est pas inspiré par son management. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, c'est une option. Et le management, pour moi, soit il t'inspire, soit il te donne des ordres. Moi, je suis un peu binaire là dans ce que je dis, mais c'est un peu ça. C'est aujourd'hui, soit il t'inspire, soit il te donne des ordres. En gros, c'est soit il travaille avec toi, soit il dit quoi faire quoi. C'est un peu ça.
Le mauvais management, c'est aussi dans le top 5 des raisons de se casser de son job. On l'a vu. Mais pour répondre à ta question, ce truc la vision, le bon leadership, etc. Dans le produit, on appelle souvent ça la culture produit. C'est un mot un peu un terme fourre-tout pour dire, en fait, est-ce qu'on est avec le bon leadership, la bonne vision, la bonne approche avant-gardiste du produit, comme ça se fait aujourd'hui dans les meilleures entreprises. Et du coup, on a demandé effectivement au product manager ce qu'ils pensent de la culture produit de leur boîte. Et on a presque 1/2 qui dit elle est insuffisante ou mauvaise. Quoi.
Ok.
C'est un vrai sujet. Et aujourd'hui, vraiment, on voit continuellement, effectivement, que c'est un point de tension et un sujet aussi très important pour les
produits. Parce que je pense qu'on voit uniquement le métier produit. Et encore une fois, c'est au-delà d'un métier, c'est une manière de travailler, une manière de voir, en tout cas, comment on peut influencer tous les métiers. Et c'est ça le vrai souci. Hein. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de culture produit dans beaucoup de boîtes.
C'est ça. Et c'est symptomatique aussi du fait qu'il y ait aussi. Enfin, je pense que tout est relié. Enfin, je veux dire, si au niveau du produit, ça ne se passe pas comme ils veulent, bah, je pense qu'au niveau de la tech, s'il y a la tech, bah, ça ne doit pas se passer aussi hyper bien. Donc ce serait intéressant de creuser ce sujet-là.
Les devs, on leur a demandé qu'est-ce que vous pensez de la culture tech de la boîte. D'ailleurs, ils sont beaucoup moins nombreux à dire la culture tech, elle est pourrie.
Ok.
Ils ont sur du 1/3, tu vois. Alors que product, c'est 1/2. Quoi.
Parce que le problème de la culture produit, c'est que elle doit toucher toutes les équipes. Alors que ta culture tech, en fait, elle touche ton équipe.
T'as plus de prise en tant que dev sur la culture tech de ta boîte.
Ah là, la culture tech, elle doit toucher jusqu'au design. Hein.
Ce que je veux dire, c'est que tu peux t'en sortir avec une culture tech qui touche tes techs. Et de toute façon, en vrai, t'as un métier qu'on comprend pas très bien quand t'es tech. Donc en fait, les gens, naturellement, ils vont un peu te laisser faire. Quand t'es product, globalement, t'as un métier qui est beaucoup plus dur. C'est ce qu'on disait, c'est un métier d'influence. Donc en fait, ta culture, elle est là dans l'influence, elle est dans le comment on communique, comment on fait, etc. Et tu peux pas demander aux gens de changer leur manière de communiquer. C'est super dur de faire changer la manière de communiquer des gens. Alors que quand tu es tech, ta culture tech, finalement, elle ne va pas beaucoup impacter les autres. Mmh. Elle va impacter ton équipe design parce que tu vas, je sais pas, vous allez voir pour mettre en place des tokens dans le design system qui vont t'arranger, etc. Pour la manière de concevoir les composants, etc. Mais...
Bah, même dans la manière, en fait c'est bête, hein, mais dans la manière même d'imaginer le processus créatif, bah, tu mets un design et tu mets un dev.
Parce que, tu vas pas leur demander de changer des compétences humaines. Tu vas pas leur demander de changer des soft skills.
Non, mais ça va changer toute leur manière de travail et de faire une approche sur ce que les designers, en tout cas, vont commencer à concevoir et imaginer. Parce qu'en réalité, c'est par la conciliation du dev et du design, et c'est pour ça qu'il y a le produit qui existe, qu'on arrive à faire quelque chose déjà qui rentre dans les temps, tout simplement, du coup, qui répond à du business, et en même temps, qui a le même impact au final et qui a la même qualité. Mais c'est un débat sans fin. Voilà, on pourra continuer sans fin, on laissera dans les commentaires, allez-y.
C'est pour ça que ce podcast, il existe d'ailleurs. Ok, ok. Bah, en tout cas, le temps, il est passé très vite. Ça fait presque une heure, les gars. C'est passé une heure, c'était hyper dense. Il y avait énormément de contenu. TPC a été représenté avec fierté et honneur. En tout cas, ce crossover était incroyable. J'ai passé un super moment. Est-ce que tu peux... On arrive en fin d'émission. Est-ce que tu peux nous dire, Mathias, où est-ce qu'on peut te trouver ?
LinkedIn.
LinkedIn ?
Ouais, je suis nul sur les messages.
T'es un mec de LinkedIn, c'est ça.
En fait, LinkedIn, t'es un influenceur.
C'est comme ça que j'ai trouvé sur LinkedIn.
C'est vrai.
T'es un mec de LinkedIn. Okay.
Ouais, tu peux me trouver nul pareil. Hein. Vraiment, par contre, j'ai pas mes motifs sur mon téléphone. Je suis nul pour répondre aux messages LinkedIn. Je réponds à tous les messages LinkedIn, mais avec 2 mois de délai.
Okay. C'est déjà bien, au moins tu réponds. Il y en a qui répondent pas.
2 mois, c'est pas mal en vrai.
Ouais, lui, par moi, il répond jamais.
Il faut dire qu'il faudrait mettre un PM sur le sujet de la messagerie LinkedIn. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais
je pense que c'est assez chaud quand même.
Il y a des choses à refaire.
Ok. Et par rapport à la. Où est-ce qu'on pourra trouver ton enquête ? L'enquête TPC.
Yes. On va je vais la poster sur LinkedIn dans quelques jours.
Ok.
On la mettra sur le site. Et il y aura pas mal, je pense, de couverture médiatique. J'espère que voilà, elle servira un maximum de monde. On s'est rendu compte l'an dernier que ça avait aidé énormément de talents à se positionner, parce qu'en réalité, que tu sois junior ou tu sais pas trop où t'en es à tête par rapport à comment tu te positionnes dans ton entreprise actuelle versus le marché, mm-hmm. ça t'aide vraiment à te positionner. Donc ça, on est super content, vraiment. Je crois qu'il y a 35 000 personnes qui l'ont consulté, donc c'est énorme.
Ah, c'est ouf.
Il y a des grosses scale-up, enfin jusqu'à des grosses scale-up qui ont carrément intégré les données pour leur politique...
pour leur grille salariale,
par exemple. Pour leur grille salariale, ouais. Wow. Alors, il y a une scale-up, une grosse fintech qu'on connaît tous, qui, par exemple, a publié son simulateur de salaire et ils ont utilisé nos données, me disaient les équipes RH, pour justement se positionner de manière hyper compétitive sur un percentile qui trouvait pertinent pour attirer du monde. Et donc, on est super contents parce que c'est une étude qui a de l'impact, vraiment, pour le coup, et qui aide beaucoup de monde. Donc, voilà, n'hésitez pas à la consulter et j'espère qu'elle vous
aura. C'est cool. Cette initiative, c'est quand même assez dingue. Ouais, elle a partagé surtout parce que ça fait du bien au marché. En fait, ça nous permet d'avoir un réel échantillon et de pas s'imaginer, et de lever peut-être certaines angoisses qu'il y a par rapport au marché et de dédramatiser surtout. Donc, et ça aide les entreprises en plus, donc à tous les niveaux. Donc en gros, encore bravo TPC pour votre initiative, c'est ouf.
Merci.
Arthur,
ouais.
Où est-ce qu'on peut te trouver, Arthur ?
Alors moi, on peut me retrouver aussi sur LinkedIn, du coup, hein, puisqu'on est dans le cadre du travail, je ne dirai pas plus. du coup, Arthur Saint-Martin, vous pourrez me trouver sur LinkedIn directement. Et voilà, moi je réponds plutôt, pas forcément vite, mais je réponds. Après, je pense que j'ai moins de personnes qui m'envoient de messages que toi. mais voilà, LinkedIn, okay. Directement.
Ça marche. Et James ?
On va conclure avec LinkedIn aussi.
LinkedIn aussi.
Allez, sponsorise LinkedIn.
Ou à la salle de sport. Ou à la salle de sport.
Ou à la salle de sport.
Ou à la salle de sport.
D'accord, ok. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire ?
Merci, déjà.
Merci TPC pour l'enquête.
Ouais.
Et pour l'épisode, c'est très cool.
Et je laisse le dernier mot à Mathias et je laisse.
Je pense qu'on pourra en faire un deuxième.
Ouais, grand plaisir pour revenir un jour si l'année prochaine, peut-être, vous donner un peu les updates 2025.
Ah, tu t'es engagé, hein.
rendez-vous annuel, c'est bon, c'est fini, là.
Je tiens parole en général, donc il n'y a aucun souci pour revenir. Et juste merci de m'avoir invité. Merci aux personnes qui trouveront ça utile. Et j'espère vraiment que cette enquête va aider un maximum de monde, encore plus, participer l'année prochaine. Et au plaisir de se rencontrer.
Ok,
trop bien.
Merci.
Mathieu, où est-ce qu'on te retrouve ?
Moi, au même endroit, prochaine émission, mais sur LinkedIn, pareil.
Voilà, retrouvez-nous tous sur LinkedIn, du coup.
Merci Enzen.
Merci.